Bonjour à vous et bienvenue dans ce 22e épisode de Flux URSS. Pour l'épisode du jour, nous allons un tout petit peu changer de nos habitudes. En effet, cette fois-ci, nous allons faire le point sur le conflit de la République d'Artsakh ou au Karabakh, peut-être comme certains le connaissent, un conflit qui a eu lieu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On se retrouve donc tout de suite après. USSR. Pour bien démarrer cet épisode, nous allons d'abord nous pencher sur les différents protagonistes ainsi que noms ou localités qui peuvent être importantes pour la compréhension globale de ce que nous allons parler aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons l'Arménie, une population en 2020 d'environ 3 millions de personnes. On pourra noter que l'Arménie fut la première nation à adopter le christianisme comme religion d'État en 301, donc après Jésus-Christ, hein, vous l'aurez bien compris. Ils sont majoritairement orthodoxes et le pays est surtout connu, alors pas pour que Charles Aznavour, hein, bien évidemment, hein, mais il est aussi réputé comme un pays assez enclavé qui a des relations pas très cordiales avec ses voisins, donc qui sont à la fois l'Azerbaïdjan, nous avons aussi la Turquie et nous avons aussi la Géorgie où c'est assez compliqué. Il n'y a en fait qu'une seule passerelle existante, du moins qu'un seul point de passage entre les deux pays. Si le pays est aussi autant enclavé, ce n'est pas aussi que par des relations géopolitiques et de politique extérieure, c'est aussi par des faits naturels. En effet, faisant partie du Caucase Sud, le pays est aussi un petit peu bordé de montagnes, tout cela. Et c'est ce qui fait qu'il est quand même assez difficile d'accès. L'un des plus gros biais pour accéder à ce pays, qui n'a pas de voie à la mer d'ailleurs, c'est l'aéroport de Yerevan, donc à savoir la capitale de l'Arménie. Et de ces deux faits, en fait, en découle un dernier. En effet, l'Arménie a une difficile indépendance énergétique. Et pour en finir avec tout ce que je vous explique, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette émission, mais l'Arménie est une démocratie. En face, nous avons l'Azerbaïdjan, avec une population, toujours en 2020, de 10 millions d'habitants. Elle est composée à 94% d'une population musulmane, 85% d'entre eux sont chiites et 15% sont sunnites. Le pays a un accès à la mer, certes réduite, mais c'est tout de même la mer Caspienne. Il est aussi une émanation de l'influence, ou du moins de la culture turque. Le pays est aussi reconnu, du moins, pour être une république à régime présidentiel, même si, nous y reviendrons, on peut la qualifier de pétromonarchie. D'ailleurs, je peux déjà expliquer le côté pétro de pétromonarchie. En effet, l'économie de l'Azerbaïdjan est fortement dépendante de l'exploitation du pétrole qu'on trouve en mer Caspienne, tout simplement, qui représente 70% de ses exportations et 50% du budget de l'État. Pour continuer à rentrer dans les détails, nous avons aussi un territoire qui est le territoire de Nakhitchevan. Nakhitchevan, en fait, c'est un territoire de l'Azerbaïdjan, mais qui n'a pas de continuité territoriale avec l'Azerbaïdjan. C'est une véritable enclave, si vous préférez. Elle a une frontière, du moins ce territoire a une frontière avec l'Iran, l'Arménie et la Turquie. Alors, vous comprenez bien que, étant enclavé, il y a souvent quelques tensions avec d'autres territoires, surtout que vous allez voir qu'encore une autre enclave fait débat, mais bon, ça, vous aurez compris de quelle enclave nous parlons. En effet, il y a bien évidemment des tensions avec l'Arménie qui entravent toute communication directe avec Nakhitchevan et le reste de l'Azerbaïdjan. En effet, c'est vraiment, c'est un peu comme la bande de Gaza, si vous... un petit peu pour comprendre un petit peu l'idée, c'est qu'il n'y a pas de, voilà, il y a vraiment pas de continuité territoriale entre ben, ces deux entités. Maintenant, pour être tout à fait exact, il faut savoir que ces deux pays ont connu, alors bien évidemment je parle de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, ont connu la soviétisation, et en fait Nakhitchevan a aussi été soviétisé, pourrait-on dire, et à l'époque de cette soviétisation, la population était à 50% à peu près arménienne sur ce territoire-là. Mais pendant la soviétisation, en fait, il y a eu de fortes vagues d'émigration et surtout, dans ce territoire-là, une forte politique pro-azérie dans cette enclave. Le rattachement, en fait, de cette région s'est fait à partir de 1921, que ce soit sous Lénine et reconfirmé avec Staline un petit peu plus tard. Il faut savoir aussi, donc voilà, pendant cette période-là, comme je vous l'ai dit, la population arménienne a été un petit peu invitée à aller voir ailleurs si elle y était, mais évidemment en Arménie. Mais aussi, nous avons eu une guerre avec notre territoire, celui dont nous allons parler tout de suite après, donc savoir le Haut-Karabakh ou Artsakh, comme le disent nos amis arméniens. Et en fait, dans ce territoire-là, à Nakhitchevan, pendant ce qu'on appellera la première guerre du Haut-Karabakh, dans les années 90, en fait, eh bien, les Arméniens, le peu qu'il en restait, ont été encore une fois invités à rentrer en Arménie. Maintenant que vous avez tout ça en tête, il est maintenant, bien évidemment, temps de parler de Artsakh ou Haut-Karabakh, donc la région qui nous intéresse, avec comme capitale Stepanakert, qui est en fait une enclave qui se trouve en Azerbaïdjan. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Au XVIIIe siècle, en fait, ce territoire était peuplé déjà d'Arméniens et faisait partie de l'Empire perse. Il fut cédé à la Russie en 1805. C'est juste après la révolution soviétique, en 1921, que le bureau caucasien du parti bolchevique leur rattacha en fait ce territoire-là à l'Azerbaïdjan. Et en 1923, même, ils décident d'en faire ce qu'on appelle un oublast autonome du Haut-Karabakh. Un oblast, c'est une région administrative, pourrait-on dire assez simplement. Mais cette cession à l'Azerbaïdjan, en fait, elle survient plutôt après plusieurs années de conflit entre l'Arménie, déjà entre la République démocratique arménienne et la République démocratique d'Azerbaïdjan. En effet, ils convoitaient déjà ce territoire. Les Britanniques, qui commandaient la région après la Première Guerre mondiale, acceptent cependant la nomination d'un gouverneur azéri. Et dès 1919, des massacres d'Arméniens ont lieu. En 1919, toujours, les représentants de la région acceptent temporairement l'autorité azerbaïdjanaise dans l'attente d'un règlement définitif qui ne viendra jamais. On notera aussi que dès cette époque, le Haut-Karabakh, ou Artsakh, était déjà peuplé à plus de 94% d'Arméniens. À partir de 1988 et jusqu'à l'effondrement, du moins la dislocation de l'URSS en 1991, ça continue un petit peu après aussi. On va dire que toutes ces régions-là aussi essayent de prendre une forme d'indépendance, et c'est alors que l'Assemblée nationale du Haut-Karabakh, parce que c'était une région aussi indépendante, il faut le noter, souhaite cette fois-ci vraiment prendre son indépendance. Sauf que cette fois-ci, comme c'est une enclave, en plus l'Azerbaïdjan réplique en annulant son statut d'autonomie. C'était toujours en 1900, cette fois-ci c'était en 1991. Déjà, il y avait quelques déjà grosses rivalités, déjà des affrontements un petit peu avant, donc en 1980, qu'on peut dater jusqu'à un petit peu avant 1988, l'Azerbaïdjan décide alors de faire un blocus, ce qui provoquera une catastrophe humanitaire et qui forcera l'Arménie à leur venir en aide, multipliant bien évidemment les victimes et les conflits jusqu'en 1994, date d'un cessez-le-feu qui, un petit peu, met en place, on va dire, une occupation frontalière de l'Arménie, parce que c'est une enclave, donc ils essaient aussi de sécuriser ce qu'on peut appeler un corridor, tout simplement, pour accéder au territoire de l'Artsakh, mais à la fois ils ne reconnaissent pas non plus vraiment le Haut-Karabakh comme indépendant. Ils souhaitent toujours rattacher ce territoire-là à l'Arménie, ce qui provoquera forcément tous ces conflits, parce que voilà, s'ils auraient peut-être pris leur indépendance, peut-être que cela aurait été traité différemment a posteriori, mais bon, peut-être que je juge trop vite. En tout cas, cette guerre de 1988 à 1994 crée déjà 30 millions de morts et plus d'un million de déplacés. Pour les antécédents beaucoup plus récents qui vous permettront de comprendre la bifurcation qu'il y a eu entre les choix politiques entre ces deux pays, nous pouvons par exemple revenir sur le cas de l'Azerbaïdjan. En 2018, par exemple, nous avons la réélection du président azéri, à savoir Ilham Yalev, qui est en fait ce qu'on peut appeler un autocrate, tout simplement, parce qu'il est déjà au pouvoir depuis 15 ans et il est réélu avec 86% des voix, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous parlais de pétromonarchie, en effet, il avait déjà reçu le pouvoir de son père, grosso modo. Donc on s'arrange un tout petit peu avec la démocratie. À côté de ça, l'Arménie aussi avait connu ce qu'on pourrait appeler communément une démocratie illibérale. C'est en fait des régimes qui sont un petit peu démocratiques sur la forme, mais vraiment, voilà. Mais sur le fond, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'accaparation de pouvoir, etc., ce qui fait qu'on appelle ça tout simplement une démocratie illibérale. Et on va dire que l'Arménie, même si c'était moins prégnant, était sur cette voie-là depuis déjà quelques années, avec par exemple Serge Sarkissian aussi, qui tendait à s'accaparer le pouvoir, pourrait-on dire. Mais ici, par rapport à l'Azerbaïdjan, il y a eu ce qu'on appelle une révolution de velours, ce qui rappellera probablement les révolutions de velours qui se sont passés en Tchécoslovaquie en 1989. Donc c'est ce qu'on appelle des révolutions non violentes, mais qui ont une finalité, à savoir l'émergence d'une opposition, pourrait-on dire, qui est incarnée par Nikol Pachinian. Donc voici un bref résumé de tout ce qui s'est passé. les Arméniens ont envahi les rues de la capitale, Yerevan, et ont fini par obtenir la démission du Premier ministre, donc Serge Sarkisian, en avril, c'était en 2018. Le candidat du peuple, Nikol Pachinian, député de 44 ans, propose sa candidature. Après les refus de l'Assemblée nationale, Nikol Pachinian appelle les Arméniens à bloquer les routes, les aéroports et les transports publics. En moins de 15 jours, il est nommé Premier ministre. Son programme de changement s'appuie sur celui de son parti, le contrat civil, lutte contre la corruption, redynamisation économique et maintien des liens avec l'Union eurasiatique pour ne pas effrayer Moscou. À moins de 15 jours, le changement de gouvernement est réglé avec des manifestations mais sans effusion de sang. 6 mois plus tard, des élections législatives lui donneront une large majorité parlementaire supportant ce programme politique. Malgré tout, malgré ce changement démocratique, on ne peut pas dire que la lune de miel ait duré ad vitam aeternam, par exemple. Nous pouvons noter en juin de cette année, donc 2020, pour la première fois en 2 ans, Nikol Pachinian, arrivé au pouvoir grâce au soutien de la rue, fait face à des manifestations et à des appels à démission. Sa gestion de la crise sanitaire est directement en cause. Vous le comprenez bien aussi, dans ce type de conflit, nous avons aussi des ingérences extérieures, et je vais parler d'ailleurs de la seule qui est vraiment majeure. Après, il y en a d'autres, vous le verrez, on finira là-dessus l'émission, mais nous avons par exemple l'aide turque qui a été amenée à l'Azerbaïdjan. Et il faut lire cela avec, que la politique étrangère affirmée par la Turquie a été attribuée au fait que l'AKP, en fait l'AKP c'est le parti majoritaire au pouvoir, en fait, bon, enfin majoritaire, oui. En tout cas c'est le parti au pouvoir, du moins c'est le parti de Recep Erdogan, et il a en fait une perspective de faire une politique néo-ottomane ou pan-islamiste, en fait c'est une politique impérialiste tout simplement. Et elle prend différents aspects, et selon comment ils veulent faire les choses, et selon comment ça se passe, je vais essayer de vous raconter ça pour que vous compreniez bien. Par exemple, maintenant, l'un des plus grands aéroports du monde, et c'est le plus grand aéroport du monde, je crois, a ouvert d'ailleurs à Istanbul, qui décide d'être un hub entre bien l'Europe, l'Asie, qui décide aussi d'être un hub à destination de l'Afrique, et qui décide de concurrencer le Qatar un petit peu ces terres d'aéroport multi-hub et multi-plateforme, j'ai envie de dire. Mais par contre, à côté de ça, cet impérialisme est aussi incarné par le fait que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des règles territoriales par rapport aux eaux, hein, et ce qu'on appelle d'ailleurs une zone économique exclusive, et vous n'êtes pas sans le savoir que la Turquie a eu des relations très conflictuelles avec la Grèce récemment, d'ailleurs en 2020, parce qu'en fait, pour eux, leur zone économique exclusive est trop restreinte par rapport à leur territoire, alors que celle de la Grèce est beaucoup plus grande. Je vous laisse aller vous pencher sur les cartes et vous comprendrez un petit peu mieux de quand il en retourne. Et forcément, cela a mené énormément de tensions, toujours dans cette voie impérialiste, de toujours vouloir aller beaucoup plus loin. Nous avons aussi eu, je pense que vous le savez, des conflits armés en Syrie. Nous avons aussi des conflits armés, même si c'est plus ancien. Nous avons par exemple la République turque de Chypre Nord, qui est survenue après une invasion à Chypre, donc de la Turquie, en 1974. Et notre ami Erdogan est venu en visite. Il est venu faire un, je cite, pique-nique pour le 37e anniversaire de la naissance de la République turque de Chypre Nord, reconnue uniquement par la Turquie, en 2020 en tout cas. Et c'est vrai que tout ça, ça crée une puissance, pas hégémonique, mais une puissance qui a quand même une vocation impérialiste, et tout cela peut être vu déjà sous ce spectre de la religion, en fait, déjà, et après du vouloir fait aussi d'être une puissance régionale aussi. Et aussi au fait que la Turquie a des assez gros problèmes en interne. Nous avons un problème, ils ont en tout cas eux un problème avec les populations kurdes, et ils ont aussi des problèmes d'ordre économique. On va dire qu'ils avaient déjà révisé la livre turque pour créer une nouvelle livre turque. Il y a déjà 10 ou 12 ans peut-être. Sauf que cette livre continue exorablement de dévisser. Et c'est vrai que souvent, quand les pays ont des problèmes en interne, qu'il y a une certaine forme de contestation, ils essaient aussi de réveiller une forme de sentiment nationaliste pour un petit peu cacher la misère, dirons-nous. Et cette aide à l'Azerbaïdjan peut être vue, donc vous l'aurez compris, comme une aide un peu pan-islamiste néo-ottomane. Il y a aussi un autre paramètre qui rentre en compte pour la Turquie, je pense que vous le connaissez que trop bien, enfin, du moins je l'espère, c'est le génocide arménien qui est intervenu de 1915 à 1923, donc c'est les Turcs, qui ont génocidé à peu près 1,5 million de personnes. Un génocide qui a encore du mal à être reconnu. Il a été reconnu en 2019 par les États-Unis, ce qui a d'ailleurs fait un petit peu sursauter les amis turcs. Mais voilà, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. En effet, il y a quand même encore toujours une forte haine des Turcs par rapport aux Arméniens. D'ailleurs, quand on en arrive à ces fameuses contradictions, pour des gens qui disent que ce génocide n'a jamais existé, ils disent « nous allons venir finir le travail ». Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en France, il y a eu des problèmes il y a quelques mois ou semaines, en 2020, toujours, avec un groupuscule qui s'appelle les Loups Gris, qui est une émanation d'un parti politique d'extrême droite en Turquie, qui est ultranationaliste, qui est anti-kurde, qui est anti-arménien, qui est un petit peu déjà l'émanation, qui est un petit peu l'affiliation déjà, parce que c'était en fait politique ce génocide. Ça a été décidé par un parti au pouvoir à l'époque qui descendait un petit peu du sultanat. Bon, c'est un petit peu compliqué. Je pourrais y consacrer une émission entière qui s'appelle « Les jeunes turcs », donc c'est un petit peu une sorte de filiation. Voilà. Et donc, si aussi ils vont aider l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, ce n'est pas que sur des aspects géopolitiques. Il y a toujours aussi ces petits relents derrière un petit peu, voilà, la génocidaire, tout simplement. Pour le conflit, il commence véritablement le 27 septembre 2020 avec la déclaration de guerre de l'Azerbaïdjan. Avant cela, il y avait eu différents accrochages aux frontières, voire même sur les territoires, parce que, en effet, pour faire donc ce corridor vers le Haut-Karabakh, l'Arménie avait occupé certains territoires azéris. Pour les forces militaires en présence, je vais d'abord parler de budget. L'Arménie avait quasiment 5% de son PIB consacré à la défense et parmi les pays qui consacrent le plus de son PIB à l'arme, enfin du moins à la défense, hein, pour schématiser, ils sont classés 6e et l'Azerbaïdjan, eux, y consacrent 4% et sont 9e. Malgré tout, comme c'est en pourcentage, hein, si je te donne 1% de 100 euros et si je te donne 0,1% de 1 million d'euros, je pense que dans ta tête, tu comprends un petit peu la différence. Eh bien, la différence est là derrière, c'est que nous avons un budget militaire, cette fois-ci vraiment une puissance militaire plutôt. Nous avons l'Azerbaïdjan qui est classé 64e, nous avons la Turquie qui est classée 11e, qui s'attaque à l'Arménie, donc qui est classée 111e. Pour le conflit, nous avons par exemple une aide turque qui peut se schématiser avec des mercenaires syriens, mais aussi un armement bien supérieur à celui arménien avec des drones, et nous avons aussi un armement israélien. Et tout ceci, du côté turc, est appuyé par le président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, Mustafa Sentop, qui a affirmé que la Turquie est aux côtés de l'Azerbaïdjan à sa juste cause. En déclenchant ce conflit, l'Azerbaïdjan décide de récupérer la mainmise sur l'intégralité de son territoire. En effet, comme je vous l'ai dit, le Haut-Karabakh et certaines régions aux alentours étaient occupées par l'Arménie. Et si la Turquie fournit une aide matérielle et aussi logistique et aussi militaire, eh bien c'est un petit peu le seul pays à faire ça, parce que nous avons par exemple les États-Unis qui sont hors course pour cause d'élections présidentielles, les Européens qui sont pas très efficaces avec l'Union Européenne en termes de diplomatie, on va pas se le cacher. Surtout qu'en fait, il y a aussi un gazoduc qui est en cours de construction, qui doit être mené entre l'Azerbaïdjan et le sud de l'Italie. Donc voilà, c'est un petit peu gênant donc, d'aller un petit peu réprimander un petit peu tout le monde, hein, surtout que bon, voilà, l'économie quand même, il y a que ça doit. Et pour le conflit, de façon militaire, ce sera beaucoup de drones, beaucoup de chasseurs, de l'artillerie, et surtout, par les Azéris, une utilisation d'une arme qui est censée être du moins bannie, interdite, à savoir le phosphore blanc. Après plusieurs milliers de morts et des dizaines de milliers de déplacés, le 9 novembre, le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, signe un accord de fin des hostilités qui rentre directement en vigueur le 10 novembre. Le président azéri Ilham Yalev rigole de bon cœur en qualifiant cela d'une capitulation arménienne. Selon l'accord, l'Azerbaïdjan garde les territoires reconquis, incluant Chouchi, donc en fait c'est quasiment tout ce qui entoure Artsakh, et les Arméniens, eux, conservent le corridor de la Chine qui leur permet de faire le lien entre Artsakh et l'Arménie. En contrepartie, il y a aussi un corridor qui doit être créé entre l'Azerbaïdjan et Nakhitchevan. Et pour chapeauter le tout, parce que c'était un accord tripartite, nous avons aussi le déploiement d'une force de paix russe dans la région. Tout ceci a été décidé à partir du 8 novembre, parce qu'en effet, les Azéris, en prenant la ville de Tchouchi, se mettaient à portée de tir de la capitale Stepanakert, et les Arméniens ont décidé d'en arrêter là, parce que pour eux c'était déjà trop, et ils risquaient, si le conflit continuait à perdre la totalité du territoire du Karabakh. La Turquie, elle, par le biais de son voisin Azéri, en fait, elle peut enfin avoir accès à ce qu'on appelle, cette fois-ci, encore le retour du corridor, qui permet à la Turquie d'avoir un accès continu entre la mer Noire et la mer Caspienne, leur permettant de devenir un hub énergétique. Alors, comme certains territoires aussi passaient sous le contrôle azéri, il s'est passé un fait que je pense que vous avez vu certaines vidéos passer sur Internet, que certains habitants de ces régions, donc les Arméniens, qui quittaient leurs habitats, ont décidé d'y mettre le feu pour pas qu'ils ne tombent sous la main des ennemis, et encore plus malheureux, ont décidé avec eux de déterrer les morts pour pouvoir les emporter avec eux. En politique intérieure, pour des raisons bien évidentes, vous comprenez qu'après un tel camouflet, beaucoup appellent à la démission de Pachinian, du moins pour repartir sur des bases plus saines, entre guillemets, pour pouvoir rediscuter de certains accords et de pouvoir repartir sur un autre pied, parce que voilà, comme c'est un tel camouflet que c'est plus tenable. Pour l'instant, il est toujours Premier ministre. Pachinian aussi avait voulu un petit peu trouver une forme d'indépendance par rapport à la Russie, ce qui a complètement échoué, parce que si la Russie n'était pas intervenue, même si certains trouvent qu'elle est intervenue tardivement, si elle n'était pas intervenue, peut-être aurait-il perdu plus d'intégrité territoriale, et le camouflet aurait-il été plus gros. Donc c'est aussi un camouflet par rapport à sa politique. Et c'est plutôt par le spectre de la politique extérieure qu'on peut mieux comprendre les enjeux du conflit. En effet, nous avons par exemple Zaid Manisanyan, qui est spécialiste du Caucase et qui raconte pour Le Point « Les Russes sont les grands vainqueurs parce qu'ils ont réussi à écarter la Russie du jeu diplomatique. Moscou redevient l'arbitre régional. » C'est une façon de dire aussi aux Arméniens « Regardez, si on n'était pas intervenu, vous perdiez tout. » Ils ont commis une faute en 1994, au moment du cessez-le-feu. À ce moment-là, ils gagnent la guerre. Ils auraient dû reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. Des pays auraient suivi et une situation viable se serait imposée. Ils ne l'ont pas fait sous la pression des Russes qu'ils voulaient continuer à tirer les ficelles. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est repassé aujourd'hui. Nous avons aussi une analyse réalisée par Tigrane Yegavian pour RFI. A l'évidence, Nikol Pachinian s'est retrouvé avec le couteau sous la gorge pour signer cet accord de cessez-le-feu, âprement négocié par Vladimir Poutine. C'est une défaite militaire pour les Arméniens dans la mesure où ils perdent non seulement les 7 districts qui entourent le territoire du Karabakh, mais aussi un joyau, l'ancienne capitale Tchouchi ou Tchoucha, comme c'est appelé en Azerbaïdjan, au lieu de la culture arménienne. Pour la Russie, c'est une victoire totale dans la mesure où elle garde l'Arménie sous son influence en vertu de cet accord d'assistance militaire. La relation devient de plus en plus asymétrique. Par ailleurs, Moscou ne perd pas non plus son influence en Azerbaïdjan, alors qu'il y avait lieu de croire que Bakou avait déplacé son curseur vers la Turquie. Le fait qu'un contingent russe se déploie dans ce qui reste du Haut-Karabakh, autour du corridor reliant l'Azerbaïdjan à l'enclave du Nakhitchevan, et un autre autour de l'autre corridor qui relie l'Arménie à ce qui reste du Karabakh, tout cela montre que la Russie maintient un levier de pression vis-à-vis à la fois de Yerevan et de Bakou. Donc la capitale, Bakou, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais Yerevan, c'est la capitale de l'Arménie, et Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. C'est une avancée considérable pour Recep Tayyip Erdogan, car on a bien vu que l'entrée de la Turquie dans l'échiquier caucasien ne constitue pas une ligne rouge pour les Russes, à l'exception, mais c'est à nuancer, de la présence de mercenaires djihadistes dans la région, d'où les bombardements russes dans la poche de Yibdelb, dans le nord de la Syrie. Russes et Turcs partagent un intérêt commun, mettre à l'écart l'Occident, la France, les États-Unis, soit le groupe de Minsk, et essayer de négocier en bilatéral de nouvelles alliances tactiques. Hier en Syrie, avant-hier en Libye et aujourd'hui au Haut-Karabakh. Les Turcs sortent renforcés de ce conflit dans la mesure où ils obtiennent un corridor qui relie le Nakhitchevan azerbaïdjanais, cette enclave adossée à l'Iran, l'Arménie et la Turquie, avec le reste de l'Azerbaïdjan. En cela, le projet défendu par le parti ultranationaliste MHP, allié de l'AKP, se voit renforcé parce qu'il y aura une continuité territoriale. Les Arméniens s'inquiètent de cet état de fait. Pour l'Azerbaïdjan aussi, il y a des remous géopolitiques. L'aide militaire et diplomatique et politique accordée par la Russie à Bakou dans le conflit du Haut-Karabakh force Aliyev à suivre le sillon d'Erdogan, ce qui induit une trop grande dépendance de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de la Turquie, analyse Konstantin Zatoulin, président adjoint de la commission parlementaire pour les relations avec les pays post-soviétiques de la Douma russe. Le journal arménien en ligne, je peux pas dire le nom parce que c'est trop compliqué, lirgagir.ru, ne mâche pas ces mots. L'Azerbaïdjan a été créé il y a 100 ans à partir de différents morceaux de territoire appartenant historiquement à des ethnies autochtones, dans le but de servir avant tout de réservoir de pétrole à la Grande-Bretagne, grâce à ses gisements en mer Caspienne, ce que je vous parlais tout à l'heure. Puis, de tampon entre la Russie et la Turquie. Mais aujourd'hui, il a accompli sa mission et il est prêt à s'évanouir dans le néant de l'histoire. La Turquie qui truffe l'Azerbaïdjan de terroristes internationaux précipite ainsi le déclin de ce pays. En faisant cette analyse géopolitique aussi, je suis tombé sur deux pays qui n'avaient pas forcément quelque chose à voir directement avec les influences qu'ils auraient pu avoir sur ces deux pays. Mais c'est vrai que j'ai trouvé la lecture assez intéressante, c'est pour ça que je vous le ramène. D'ailleurs, le premier pays, ça va probablement vous étonner, c'est la Suisse. On parle toujours de la neutralité suisse, mais vous n'avez pas vu les guillemets, parce que je les ai fait à l'audio, hein, ça se voit pas. Mais vous allez voir que ça va bien plus loin que ça, parce qu'en effet, l'Azerbaïdjan est reconnu pour une certaine forme de soft power, parce qu'en fait, comme ils ont quand même pas mal de pognon avec leur richesse pétrolière, ils en profitent un petit peu pour graisser la patte dans différents pays. D'ailleurs, il y a des parlementaires français qui y sont allés assez récemment, pour se faire bien voir, et pour leur montrer, comment dire, la belle vie qu'on peut vivre à Bakou. Et, pas à Bakou, hein, le pays, hein, pas une vie pas chère, hein, quoique je sais pas les prix là-bas. Mais on va dire qu'il y a une certaine forme de soft power, voilà, de puissance diplomatique, qui fait que bah, même jusqu'en Suisse, il y a des réminiscences. Et c'est beaucoup d'argent qui arrive à Bakou par la Suisse. Selon le rapport d'activité de SOCAR pour l'année 2019, établi par Ernst & Young Holding, l'essentiel des flux financiers, 84%, proviennent de la Suisse avec 46 milliards de francs pour 2019 et 30 milliards de francs pour 2018. Ainsi peut-on constater que la Suisse est devenue une source très importante de profit pour l'Azerbaïdjan en peu d'années. Dans toute cette histoire entre la Suisse et l'Azerbaïdjan, il demeure néanmoins une part d'ombre. Toutes ces accusations liées aux droits de l'homme, aux droits politiques, à la liberté de la presse, aux conditions de détention ou de torture dans ce pays n'ont jamais terni le sourire des conseillers ou conseillères fédérales qui sont allées à Bakou serrer la main de Ilan Yaliev. Pas plus que les lourdes accusations de corruption qui entachent la réputation de ce pays sur la scène internationale depuis longtemps. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, parce qu'en 2018, SOCAR, en fait c'est une entreprise azerbaïdjanaise, SOCAR avait déjà implanté une société de trading à Genève. Peu à peu, ce sont quelques 190 stations aux couleurs azéries qui se sont ouvertes en Suisse. La société fournit également du carburant pour les avions à Genève et à Zurich. Donc là aussi, vous comprenez aussi, en plus du pouvoir de l'argent, vous comprenez aussi du pouvoir énergétique que promeut aussi l'Azerbaïdjan. Et ce que je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous rappelez, ce fameux gazoduc qui part de la mer Caspienne, donc de l'Azerbaïdjan jusqu'à l'Italie, en fait, il est un petit peu aussi beaucoup financé par de l'argent suisse. Et tout à l'heure aussi, je vous en ai parlé assez rapidement avec les fournisseurs d'armes, mais Israël a eu quelque part aussi à prendre dans ce conflit. Je cite, l'Azerbaïdjan a une population plus importante et plus riche que celle de l'Arménie, surtout particulièrement en tant qu'État basé sur les ressources énergétiques. Ils ont également gagné des alliés tels que Israël et la Turquie et ont cherché à se rapprocher des États-Unis. L'Azerbaïdjan est un voisin de l'Iran et le régime iranien est l'une des principales menaces d'Israël dans la région. C'est aussi pour ça un petit peu que les deux pays se sont rapprochés. Donc voilà, j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris ce conflit. Alors c'est pas simple, comme tous les conflits, il y a des podcasts plus simples à faire que ça. Déjà sur le sujet, déjà plutôt grave, et le sujet est assez complexe à à mettre en œuvre, à expliquer. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez plutôt bien compris. Et j'ai surtout mis beaucoup de documentation qui suivra avec ce podcast. Donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller lire. Vous en apprenez toujours un petit peu plus et ce sera probablement bien mieux raconté que ce que moi j'aurais fait. S'il y a quelque chose à retenir de ce conflit, une nouvelle fois, c'est que l'Arménie a été abandonnée. Les gens ont préféré regarder à côté, ont préféré faire, comment dire, pas des procès d'intention, mais des déclarations à la petite semaine pour dire qu'ils étaient pour ceci, pour cela, etc. Mais le fait est devant nos yeux, c'est que l'Arménie, une nouvelle fois, a été abandonnée. On peut toujours se poser la question de cette occupation arménienne de ce territoire azerbaïdjanais, qu'elle revendique d'ailleurs, mais il est vrai que le conflit n'a jamais vraiment été réglé depuis déjà des années, j'ai envie de dire, depuis le cessez-le-feu de 1994. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même très lâche d'abandonner cette petite nation qui a déjà subi mille et un mots, ce génocide qui, depuis, ça fait plus de 100 ans déjà, ce génocide, si je ne me trompe pas, de le voir que... Il tombe toujours dans une forme de négationnisme ou d'abandon. Je veux dire que c'est un problème très très secondaire. De ne pas arriver à le reconnaître plus d'un siècle après, je trouve ça lamentable, tout simplement. Or que je trouve que la culture arménienne a beaucoup à nous apporter. Il y a une forte diaspora arménienne à travers le monde, du fait d'ailleurs de cet exil plus ou moins forcé par ce génocide en particulier. Mais il y a eu quelques génocides un petit peu précédemment avec les Cosaques russes. Mais voilà, le fait est devant nous. C'est vrai que si je vous racontais ça, c'est parce que moi, je me reconnais dans la nation arménienne, mais c'est vrai que c'est un plaisir voilà, de découvrir cette nation. C'est vrai que c'est un petit peu mieux. C'est vrai que c'est pour ça, des fois, que ça fait un peu bizarre. Quand je commençais à me renseigner, je disais, c'est bien que c'est facile de toucher du doigt quelque chose qui est arménien, de la culture arménienne, mais c'est plus difficile de toucher quelque chose qui est de la culture azérie. Et c'est vrai qu'en faisant les recherches, en comprenant qu'en fait, l'Azerbaïdjan, c'est voilà, un pays un petit peu de briques et de broc, bizarrement, il y a des pays de briques et de broc qui ont su... s'affranchir de cela, par exemple le Liban qui a créé une culture bon, difficilement, mais voilà, et c'est vrai que la culture azérie, bon, ben voilà, on ne connaît pas, c'est vrai. Et du coup, quand on la voit rattachée à la Turquie, c'est vrai que par voie de conséquence, c'est beaucoup plus logique. Et c'est vrai que moi je trouve ça quand même assez malheureux qu'on les ait encore une fois abandonnés. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez compris mon point de vue et que vous vous pencherez sur ce type de choses parce que voilà, ce sont les choses qui font aussi l'actualité, malheureusement, et c'est vrai que bon. Moi ça a été pas très compliqué de faire cette émission, mais voilà, j'ai essayé de vous apporter un regard pas critique mais un regard un peu plus réflectif sur ce conflit pour que vous puissiez vous donner un avis et surtout que vous puissiez aller vous renseigner pour essayer d'en apprendre un petit peu plus que ce qu'on vous dit à droite à gauche pour oh là-bas il se faut une petite guerre, c'est rigolo, voilà. Écoutez, ben voilà, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans Up to 11. Ciao ciao.